la flèche irréprochable. Philippe Frétinier sur Radio Grand Ciel.
J'ai commencé à parler de la question du plan de l'édifice. J'ai fait une assez longue introduction où j'ai soulevé différentes rubriques sur lesquelles je vais revenir au fil des émissions. On a parlé des différents problèmes que pose la construction d'une cathédrale. On parle des hommes, on parle du financement. Les hommes sont extrêmement importants. Et on parle évidemment aussi des différents aspects techniques, les matériaux. On va donc développer tout ça. Dans la toute dernière émission, donc, je commençais à parler du plan. Et au fond, il y a deux acteurs importants pour l'établissement du plan d'une cathédrale, à savoir le chapitre qui supervise, c'est lui le maître d'ouvrage, comme je l'ai déjà dit. Et puis, les hommes de l'art, les maçons. Alors, en général, donc, il y a une équipe qui varie, dont le nombre n'est pas fixe, mais qui varie entre 50 et 100 personnes, hein, des hommes de l'art, qui se divisent en plusieurs catégories. Il y a là ceux qui servent vraiment pour les tâches les plus primaire du chantier, c'est-à-dire apporter les matériaux sur le chantier. Bon, pour la pierre, à Chartres, ça va être la pierre de Berchère, une douzaine de kilomètres de Chartres. Ça va être un calcaire à grain fin qui vient de l'Oise et qui donc remontait par bateau l'Oise, emprunter la Seine et puis l'Eure. J'ai déjà parlé d'une sorte de port au pied de la cathédrale à côté de l'église Saint-André en Basse-Ville. Et puis, l'établissement du plan de la cathédrale doit répondre à un certain nombre de demandes du chapitre, et notamment sur quelque chose de très, très important, ce qui sont les nombres. Et c'est une idée qui court d'abord dans la Bible, hein. Il y a tout un aspect de la Kabbale qui se porte justement sur la symbolique des chiffres dans l'Ancien Testament. D'autant plus qu'en hébreu, une lettre, c'est aussi un chiffre. Hein. Donc, il y a tout un jeu symbolique sur les nombres et les noms. Mais les chrétiens vont aussi reprendre ça à leur compte. Et, par exemple, saint Augustin, au IVe siècle, explique que Dieu fait le monde en mesure, nombre et poids. L'ignorance des nombres nous empêche de comprendre ce qui se trouve dans l'Écriture de façon signifiante et mystique. Donc, le chapitre va vraiment insister sur cette dimension symbolique des nombres qui doivent apparaître dans l'établissement du plan. Mais ça n'entre pas en contradiction avec la façon de procéder des constructeurs, donc les équipes de maçons. J'ai oublié de dire tout à l'heure que diviser surtout en deux corps de métiers importants, c'est-à-dire la tomos, ceux qui taillent la pierre. Alors, la tomos, il y a évidemment ceux qui taillent la pierre d'appareil hein, pour servir à construire l'édifice, et puis il y a ceux qui font les images, les imagiers, les sculpteurs, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et ça n'entre pas en contradiction parce que les constructeurs emploient deux choses fondamentales pour faire leur plan, c'est la géométrie et aussi l'utilisation des nombres. Hein. Donc ça converge vers donc les demandes du chapitre convergent avec les exigences constructives des maçons qui construisent l'édifice. Suivant les édifices, les nombres mis en valeur ne sont pas forcément les mêmes, mais on peut quand même retenir déjà deux chiffres très importants. C'est le 7 qui représente les arts libéraux qui sont composés de 4 et 3, quadrivium et trivium. Alors le trivium, ce sont les arts du logos, hein, la grammaire, la rhétorique, premier plan. parce que c'est celle qui va porter le message. Et puis, le quadrivium sont les arts qu'on pourrait dire physiques, qui comprennent les mathématiques, l'astronomie, la musique. Voilà. Donc, le chiffre 7, par ailleurs, c'est un chiffre sacré, qui représente aussi la puissance céleste. Et puis, le 9, qui est un nombre précieux et encore secret, et qui est un chiffre en rapport avec la Vierge. Ça aussi, ça vient de loin, puisque depuis l'Antiquité, c'est le chiffre de la déesse. Et la Vierge a été appelée dans les hymnes d'un tout-puissant le siège de la sagesse, Celeste Sapientia, hein, est devenue par analogie la racine du pouvoir. Ce que Dante résume en disant « La Vierge Marie est neuf car c'est la racine de la Trinité ». Donc les bases des nombres sont extrêmement importantes, et puis les outils de la géométrie, ça va être essentiellement le carré, le cercle, le triangle. Et pour ce qui concerne la cathédrale de Chartres, le plan a été établi probablement à partir du carré des transepts. On va vers l'Orient et donc vers le sanctuaire dessiner le cœur. On descend vers la façade occidentale qui à Chartres est celle de la cathédrale précédente, j'insiste là-dessus, pour établir la nef. Les maçons, à travers la croisade des cathédrales, comme on l'appelle, vont prendre une importance sociale de plus en plus grande. Notamment, ce sont les évêques qui vont leur conférer d'une certaine façon cette importance, puisque leurs demandes sont de plus en plus exigeantes. À chaque chantier, on doit faire une cathédrale encore plus grande que la précédente. Et donc, petit à petit, les maçons vont devenir des notables. Ils vont avoir une éducation que ceux du XIIe et XIIIe siècle n'ont pas encore. Ils vont devenir lettrés. Et donc, on ne sait rien sur celui de Chartres, alors que par la suite, on va connaître le nom d'un certain nombre de maçons, notamment sur le chantier de Strasbourg. Mais là, on est plus tard. Donc, il divise entre l'espace qui sert de la carré des transepts et le sanctuaire, il va diviser le cœur en un nombre égal de travées, qui sont donc, les travées correspondent à des segments de voûte. À Chartres, on a donc la fameuse voûte sur plan Barnon, c'est-à-dire sur plan rectangulaire. Pour des questions de largeur de l'édifice, on a resserré, on a abandonné le plan carré pour les travées. J'en ai déjà parlé. Et puis, du côté nef, il va diviser la nef en sept travées. De manière à ce que la nef se décompose en 4 plus 3, le fameux 7, qui donc, comme je l'ai déjà dit, représente les arts libéraux, le nombre de jours de la semaine, le nombre de planètes, enfin, en tout cas celles qu'on connaît à l'époque, c'est le quart d'une période lunaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans l'affirmation. Et puis ça reprend le 4 plus 3 des arts libéraux. Donc ça c'est vraiment pour la géométrie. Et puis à l'intérieur de ça, il y a un certain nombre de figures qui s'intègrent pour déterminer un certain nombre de dimensions. Pour ceux que ça intéresse dans le détail, parce que c'est un petit peu compliqué à l'antenne de rentrer dans le détail de ça sans avoir des schémas en face, il y a eu un opuscule tout à fait précis et intéressant écrit par Jean Villette qui s'appelle Le plan de la cathédrale de Chartres. Et donc, je renvoie les auditeurs à ces schémas. Donc, la géométrie, les nombres, et puis, il y a au-delà de ça, l'idée que la cathédrale est le reflet de la Jérusalem céleste sur Terre. En fait, tout part de la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire que parce qu'il y a une Jérusalem terrestre, on imagine qu'il y a une Jérusalem céleste, qui va être d'ailleurs largement détaillée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. Et par un retournement au fil du temps, la cathédrale devient l'image terrestre de la Jérusalem céleste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la croisade des cathédrales, dans l'art gothique. Et d'ailleurs, dans l'élévation, on va reprendre ce thème aussi, parce que à Chartres, l'élévation est sur trois niveaux. Donc, on a ce qu'on appelle le niveau des grandes arcades, c'est-à-dire au niveau du sol, là où nous sommes quand nous allons à l'intérieur de la cathédrale. Au-dessus, il y a le triforium, qui a vocation à recevoir les éléments à l'extérieur de toiture, de couverture des bas-côtés. Et enfin, tout en haut, les grandes fenêtres, qui d'ailleurs, pour reprendre la symbolique de l'Apocalypse, avec les vitraux, sont l'image des pierres précieuses décrites dans l'Apocalypse de Saint Jean, notamment, et qui filtrent la lumière divine qui descend du ciel vers les fidèles. Et ça se fait sur trois niveaux, c'est-à-dire finalement le chiffre 3 qui est aussi celui de la Trinité. Donc il y a vraiment toute une symbolique extrêmement importante. Quand on s'intéresse au sujet, on le voit bien parce que un certain nombre d'écrits des 12-13e siècle contiennent des développements sur le système des proportions, sur les chiffres, et on ne plaque pas a posteriori des schémas intellectuels sur l'établissement du plan des cathédrales, mais on sait que par les textes de l'époque, au contraire, finalement, c'était quelque chose de très important. Peut-être même plus important, l'étude des nombres, les concepts symboliques font partie du monde caché, qui était finalement plus réel pour les hommes du Moyen-Âge que tout ce qu'ils pouvaient voir. Hein. Le réel, c'est un reflet grossier du monde spirituel qui est évidemment le plus important pour l'homme du Moyen-Âge. Il y a aussi cette idée dans la symbolique, cette idée de progression à travers le plan de l'édifice, c'est-à-dire que le christianisme, c'est une religion du progrès, la progression spirituelle. Hein. On part du péché originel, on passe par le baptême, et puis on arrive à la communion. Et donc, il y a cette idée de symbolique de progression à partir de l'Ouest, où on est encore profane, et on regarde vers l'Est, et l'autel et le soleil levant. La place des pèlerins se trouve dans la nef et ils prient en cheminant vers le chœur. Alors que le chœur est réservé au clergé, d'ailleurs il est séparé de la nef par un jubé à l'époque. La musique que l'on entend là, au fil de cette émission s'est tirée d'un recueil qui s'appelle le Livre d'orgue de Montréal. Alors pourquoi le Livre d'orgue de Montréal? Parce que un religieux dont on ne connaît pas beaucoup de choses qui est parti au 17e au Canada, donc dans l'optique d'évangélisation, hein. Et il a emporté avec lui un recueil de pièces d'orgue dont les auteurs sont divers. Certains nous sont inconnus, d'autres nous sont connus. Par exemple, le morceau que nous allons écouter est un morceau de Nicolas Lebègue, grand organiste du 17e. De la Jérusalem céleste est extrêmement présente, importante, et les églises, les cathédrales représentent des images complètes de la Jérusalem céleste, qui est aussi la Jérusalem, la cité future. À l'époque gothique, c'est vraiment une image très très forte, la cathédrale est une image très très forte de la Jérusalem céleste. Et sur le plan de la symbolique, si on revient à la façade de Chartres, il y a trois portes, un portail royal, divisé en deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de la porte elle-même, dans les ébrasements de chaque côté, ce sont des figures de l'Ancien Testament, pas toutes identifiées d'ailleurs, mais on y trouve notamment le roi David, la reine de Saba, Salomon, et d'ailleurs la statue de David qui s'écrit en hébreu « Dalet vo Dalet » puisqu'il n'y a pas de, il n'y a que des consonnes dans l'écriture hébraïque. Il se trouve que j'ai dit précédemment qu'en hébreu, les chiffres sont des lettres, les lettres sont des chiffres. Il se trouve que Dalet plus Vo plus Dalet, en hébreu, ça donne la somme de 14. Et comme par hasard, la statue de David, en partant de la gauche, l'extrême gauche du portail, elle est à la 14e place. Donc on trouve toujours cette importance. Et au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des chapiteaux, des colonnes qui entourent les portes, et des tympans, nous sommes dans le Nouveau Testament, puisque au centre, il y a le Christ, c'est une statuaire romane, hein, n'oublions pas que c'est le porche date du XIIe siècle, et c'est le Christ ressuscité après sa mort, ce qui prouve son essence divine. Dans les cathédrales, Chartres échappe à la règle, dans la plupart des cathédrales, le portail occidental, il y a un jugement dernier. À Chartres, il n'y est pas parce que c'est l'époque d'avant avec une autre démarche symbolique. Probablement à cause d'une mauvaise étymologie, c'est-à-dire qu'on reliait Occident à Occidéré. Hein. Alors, ça, c'est une spécificité de Chartres, parce que si vous voyez les cathédrales précédentes, comme Meaux, Sens, même Bourges d'ailleurs, qui est en même temps que Chartres, il y a vraiment un jugement dernier à l'Occident. Et Chartres est la seule cathédrale du XIIIe à ne pas avoir de jugement dernier à l'Occident, hein, à cause de la façade précédente. Donc, le chiffre 3 des trois portes du portail royal, qu'on va retrouver d'ailleurs aux deux extrémités du transept, hein, trois porches aussi, ça c'est le programme iconographique le plus important à Chartres, parce que si vous allez contempler l'extérieur des autres cathédrales, que ce soit Paris ou Amiens ou même Reims, il n'y a pas trois porches aux extrémités du transept. Chartres a vraiment un programme qu'on pourrait dire colossal au sens architectural du terme, c'est-à-dire très très important. Hein. Et donc les trois portes du portail royal sont encadrées entre deux tours. Deux, c'est le chiffre de la dualité, hein, la première division entre le matériel et le spirituel, entre la substance et l'essence. Les tours ont quatre côtés, c'est le carré de deux, donc ce qui, dans beaucoup de cultures, représente le monde matériel. Donc le pèlerin, il entre dans la cathédrale par le côté symbolisant le monde visible et matériel d'où il arrive. Et en franchissant ce seuil, il va rentrer dans une autre dimension avec un sens et une signification plus spirituelle, puisqu'il va commencer son avancée du monde matériel de l'extérieur à l'ouest, vers l'est, l'Orient, la lumière.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur 106.8 à Chartres.